Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Perbos. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous reçois parce que vous incarnez le rôle-titre d'un opéra qui va être donné très bientôt, l'opéra comique, à compter du 14 février prochain, Coronis, un opéra qui est surgi des cendres de l'histoire en 2019, un opéra espagnol de Sébastien Durón, donc un opéra entièrement chanté en espagnol.
Absolument.
Prise de rôle, prise de langue, c'est la première fois que vous chantez un opéra en espagnol.
Tout à fait. J'étais très surprise et j'étais agréablement surprise de découvrir que l'espagnol est absolument adapté et idéal pour la vocalité lyrique.
Et alors, c'est un opéra qui a été composé au tout début du XVIIIe siècle. Sébastien Durón venait d'entrer à la cour du roi Philippe V, qui était le Bourbon, qui avait succédé aux Habsbourg. J'ai révisé hein,
Oui, je
Marie
vois ça,
Perbos,
je
c'est
suis
pas une
très
culture que j'avais
impressionnée.
avant de lire à propos de cet opéra. Donc, c'est pour resituer quand même cet opéra auprès des gens qui n'ont pas eu comme moi l'opportunité de lire. Alors, c'est une affiche incroyable parce que vous êtes au milieu de sept chanteuses. Il n'y
Absolument,
a
il
qu'un
a.
rôle masculin.
C'est ça qui est fabuleux, c'est que l'opéra du début du XVIIIe siècle en Espagne avait la particularité d'être chanté uniquement par des femmes. C'est un choix musical et chorégraphique d'avoir un homme sur le plateau, et on a aussi également un danseur masculin. Mais à l'origine, effectivement, tous les rôles étaient féminins.
Là, il y a un seul chanteur qui incarne Protée, Cyril Obiti, qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde avec un opéra avec des tragédies.
Absolument.
Puisqu'en fait, vous êtes poursuivi, vous, Coronis, par le personnage de Triton qui est incarné par Isabelle Druet.
Oui, qui est fabuleuse dans ce personnage qui est pas facile parce que mythologique, mi-imaginaire. Enfin, c'est un personnage très intéressant au point de vue vocal et théâtral. Et elle m'en a fait part aujourd'hui dans notre première répétition. La construction de son personnage est très complexe avec une partie mi-humaine et une partie mi-animale, bestiale. C'est très intéressant, c'est très riche.
Alors c'est un opéra en fait que Vincent Dumestre a retrouvé en quelque sorte en 2019, qui a déjà été joué à Caen. Là, c'est son entrée au répertoire de l'opéra comique. Et pour vous, c'est une prise de rôle, Marie
Oui.
Perbos.
Oui, je découvre cet opéra et c'est une grande joie de rejoindre une troupe qui est déjà formée. Donc Omar Porras, ça fait travailler l'équipe au moment de la création avec une esthétique très radicale, très intéressante, basée sur la danse balinaise. Ils ont fait un travail théâtral bien plus poussé et je dirais très radical dans le sens où souvent à l'opéra, contraint par le temps, on est obligé de monter les choses très vite. Et donc on a tendance à peut-être parfois aller aussi un petit peu vers des choses qui sont plus évidentes et plus sans aller chercher midi à 14h. Et là, ils ont eu le temps de la construction d'une création très, très originale. Et puis Omar Porras, c'est un travail théâtral pur aussi, qui l'apporte dans l'opéra et qui fait que les personnages ont tous des caractéristiques physiques, de démarche, qui sont chacun très caractérisés. Et ce travail, je trouve, donne une âme, un supplément d'âme à cet ouvrage, parce que donc c'est un ouvrage très poétique. Et puis beaucoup de mythologie, beaucoup de féerie. Il y a quelque chose de très magique constamment.
Alors c'est un opéra qui a été composé pendant une sorte d'âge d'or de la création littéraire, musicale en Espagne au début du XVIIIe. Et Omar Porras, il est colombien, donc il y a un peu ses racines justement. Il se retrouve dans un élément proche peut-être de sa
Oui, il a fait
culture.
beaucoup de travail sur les danses traditionnelles de plusieurs pays, mais c'est vrai que là, l'influence balinaise est très, très intéressante, balinaise, parce que donc on est constamment, on est aussi à mi-chemin avec un petit peu de, comment ça s'appelle, cet art italien du théâtre,
La Commedia dell'arte.
exactement, merci beaucoup. On est vraiment aussi dans la commedia dell'arte avec certains jeux de regard qu'on retrouve qui sont très caractéristiques. On a aussi une corporalité qui est proche des jeux de masques. C'était très intéressant cet apport et bon alors pour nous c'est évidemment une plongée dans un monde et puis alors encore plus pour moi qui rejoins le bateau parce que finalement j'ai pas fait la grande préparation qu'ils ont fait mais j'ai eu la chance de travailler 2 jours en exclusivité avec Omar et où j'ai pu effectivement expérimenter cette esthétique balinaise qui fait beaucoup 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 travailler les cuisses hein. J'aime autant vous dire que je vais avoir la jambe fuselée à la fin de cette production parce que donc on a constamment la jambe déverrouillée, on n'est jamais droit sur nos 2 jambes, ça fait partie des choses qui sont interdites et donc on est constamment aux aguets, le corps est constamment prêt à réagir. Alors on rigole parce qu'on a tous la cuisse qui tremblote parce qu'on est voilà, on n'a pas habitué, mais ça donne quelque chose de constamment mouvant et vivant. C'est très beau.
Et alors au niveau musical, c'est une musique très très difficile à chanter ou ça correspond à un univers que vous connaissiez déjà?
Alors, c'était pas un univers que je connaissais, mais on retrouve quand même la musique du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle. On est dans cette vocalité. Évidemment, l'espagnol donne une couleur particulière. Il y a beaucoup de jeux donc rythmiques, notamment pour les connaisseurs. Il y a des jeux d'émiol énormément, qui donnent ce côté dansant. Et puis, il y a aussi parfois de grands airs lents avec des belles dissonances qui frottent un peu à la pergolaise, qui sont très intéressants. Donc, je pense que c'est très accessible pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'opéra, parce qu'à la fois il y a des mélodies, on sort et on a envie de les fredonner, et à la fois il y a des grands chœurs rythmés qui sont très puissants et qui emportent les foules. Je pense qu'il y a de quoi effectivement séduire les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra.
Oui, et puis Omar Porras en général, visuellement c'est toujours magnifique.
Ah bah là c'est grandiose, que... il y a des jeux de lumière, la création lumière est splendide, les costumes de Bruno Fatalo sont absolument divins, j'ai fait mon essayage il y a une heure et je dois dire qu'il a cette capacité de rendre tout le monde splendide. C'est j'ai une grande robe qui est en taffetas noir transparent, j'ai l'impression d'être sortie tout droit d'un buisson et qu'on m'a juste jeté quelques branches et hop, ça m'habille. C'est assez spectaculaire.
Et alors ça doit être passionnant de chanter avec un univers quasi exclusivement féminin, parce que c'est rare à l'opéra.
C'est
même l'inverse de ce qui pouvait se faire.
Absolument, généralement
pays,
on n'est que des hommes au plateau et puis une jeune première et... C'est vrai que c'est très intéressant. Alors là, j'ai beaucoup de chance de rejoindre beaucoup de mes amis avec lesquels j'ai fait mes études et certaines que j'ai rencontrées sur les routes. Donc c'est vraiment une chance parce que même si c'est une équipe effectivement avec laquelle je n'ai pas fait la création, j'ai été accueillie tout de suite très chaleureusement par des gens que je connaissais effectivement depuis toujours. Donc,
Alors Vincent Dumestre, il a retrouvé comment cette partition, il a pu vous le dire? Ou alors non, vous arrivez à un moment où déjà le travail de recherche...
Exactement, tout ce que je peux
réalisé.
Vous dire, c'est que je sais que l'œuvre était un petit peu... n'était pas sous sa forme qu'on présente aujourd'hui et qu'elle a été... par le travail, élaboré aussi avec des coupures, avec des petites améliorations pour donner, enfin amélioration c'est beaucoup dire, mais en tout cas à l'usage, ils se sont rendus compte de petites coupes et de rythmes, donc ils ont donné une forme qui est celle d'aujourd'hui, et là la partition que je travaille, il y a écrit version 3 dessus, donc je pense que chacun a beaucoup transpiré et beaucoup donné de sa personne pour façonner musicalement également chaque rôle.
Oui, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, le spectacle dure à peu près 2 heures. Alors
c'est
que
ça.
Le vrai spectacle, à l'origine, ça devait durer beaucoup plus longtemps.
Je pense, oui.
Ils ont dû faire des coupes. Alors au niveau de l'instrumentation aussi, ça a l'air très étonnant, parce qu'il a l'air d'avoir une instrumentation. Voilà, pour le moment, j'imagine que vous travaillez avec...
Tout au clavecin pour l'instant. On est allé au moment des scéniques, donc les répétitions scéniques. On a Camille Delaforge qui dirige et puis du clavecin et puis qui nous donne les indications musicales. Donc c'est du travail effectivement pour l'instant au plateau. Dans le petit théâtre au 6e étage, on a reproduit les décors qui vont être installés la semaine prochaine sur le grand plateau.
Oui, puisque là, j'ai le bonheur de vous interviewer à l'Opéra Comique. Il y a encore des représentations d'Hamlet.
Absolument.
On est un peu,
la dernière ce soir.
Voilà. Alors, là, on est dans un autre univers. Alors, Marie Perbeuse, justement, pour parler un peu cuisine. Alors, expliquez-nous, on vous demande d'être le rôle-titre d'un opéra, Coronis, donc encore une fois, à partir du 14 février à l'Opéra Comique. Comment ça se passe au niveau de la préparation? Vous allez travailler seul d'abord, puis après avec un coach, comment ça va se passer?
Alors c'est toujours différent, il n'y a pas un ouvrage où on travaille de la même façon. Celui-ci, effectivement, comme je savais que ce serait une reprise qui serait de très courte durée, dans le sens où je vais avoir 4-5 jours de scénique et puis 2 jours au plateau avec l'orchestre, et puis hop, je dois sauter dans le rôle, et que c'est pas une création, on est dans un travail très différent. Là, je viens de faire au Capitole de Toulouse une Flûte enchantée qui est donc une création, et là on est pendant un mois, une équipe, tous les jours au plateau, et on cherche, on crée, on construit, tous ensemble. Là, il n'était pas question de bouleverser ni le rôle, ni l'équilibre subtil qu'ils ont déjà trouvé. Donc, il a été question pour moi de surtout rentrer dans des chaussures qui existaient, tout en restant moi-même, mais sans chercher à secouer l'écosystème qui est fragile et subtil, et je trouve très réussi. Donc, c'est surtout ça, c'est trouver la couleur vocale qui est la mienne, parce que Anna Quintance, qui faisait le rôle, oh, j'espère que je prononce bien son nom, parce que je l'ai vu beaucoup écrit, mais je l'ai peu entendu prononcer, donc j'espère que c'est bien comme ça qu'on dit. En tout cas, Anna, ça c'est sûr.
Si on a des plaintes des auditeurs, comme ça on verra l'audimat.
Exactement. La divine Anna a créé ce rôle et elle a fait sa proposition très, très intéressante, mais avec ses caractéristiques physiques et vocales. Et donc le tout est de trouver ma place là-dedans. C'est très intéressant comme travail. Et au niveau de l'espagnol, bah, j'ai travaillé avec différents coachs, notamment la harpiste du concert spirituel.
De l'ensemble de Vincent Dumestre, qui est le poème harmonique.
Notamment la harpiste.
C'est vrai que tous les noms de ces orchestres baroques...
marche sur la tête, hein, franchement. Bref, donc j'ai travaillé notamment avec la harpiste du poème harmonique qui a été la coach, et c'est elle qui a unifié l'espagnol de toute l'équipe, parce que, comme vous le savez peut-être, l'espagnol, ça peut se prononcer de façon extrêmement variée selon la zone qui est parlée. Et donc, on a essayé de partir sur une certaine esthétique et qu'elle soit commune à tous. Et puis après, bah, ceux qui ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux.
En plus, c'est un espagnol du début du 18e siècle.
Voilà, mais bon, je crois qu'on a essayé de ne pas trop faire de particularisme temporel. Je crois qu'on est parti sur un espagnol à peu près actuel.
On ne va pas faire du snobisme sur cet opéra, voilà. Encore une fois, qui est ressorti après 4 siècles, que je ne me trompe pas, d'absence. Oui. Des scènes, ça doit être, c'est presque comme si vous faisiez une création contemporaine.
C'est ça, mais avec des mélodies qui sont plus faciles à mémoriser.
Et alors, justement, pour faire un détour, Marie Perbos, je vous ai entendu il y a quelques semaines au Bouffe du Nord dans un tout autre répertoire. Vous étiez aux côtés de Chantal Santon-Jeffrey. Et puis, avec Florian Albrecht sur un piano.
Florian Albrecht qui avait un très beau piano forte, pièce très rare. Oui.
Et là, on vous sentait aussi, il y avait une sorte de bonheur à vous écouter, chanter, et puis à vous voir sur scène. C'est un répertoire qui n'avait rien à voir, Rossini, opéra début du 19e.
Voilà, absolu bel cantiste pendant une heure. Mais c'est vrai que les Bouffes du Nord, c'est un peu comme l'opéra comique, c'est des lieux emblématiques des scènes parisiennes, et c'est des lieux qui sont incroyablement inspirants. C'est aussi ça qui est formidable, c'est qu'on arrive avec qui on est, mais tout d'un coup, on est sublimé par ces lieux. Enfin, les auditeurs ne peuvent pas voir le lieu absolument extraordinaire, le foyer du public dans lequel nous sommes en train d'enregistrer. Ça, on ne peut pas être la même personne quand on est là ou quand on est ailleurs.
Et puis en plus, c'est une scène quand même, bon, c'est un opéra avec énormément de spectateurs, mais qui a quand même une intimité,
oui,
par rapport à d'autres maisons d'opéra.
Tout à fait, il y a une proximité. Je pense que c'est vraiment un lieu idéal pour ce répertoire où on peut vraiment aller dans des nuances qui sont d'une grande subtilité, où l'orchestre peut vraiment être d'un grand raffinement parce que la salle ne contraint pas à envoyer la purée pendant une heure. Et c'est aussi très précieux parce que la subtilité de ce répertoire vocal, c'est justement d'avoir des grands coups d'éclat, mais d'avoir aussi des moments d'une intimité folle, alors que le personnage, mon personnage a des moments de... Elle a très très peur du triton qui la pourchasse à travers les bosquets et elle tourne de l'œil, et c'est vrai qu'elle tourne de l'œil pendant qu'elle chante, et donc on n'imaginerait pas que je sois obligée de chanter très très fort, et c'est très beau d'entendre quelque chose à mi-voix, et la salle de l'opéra comique le permet.
Remarquez, ça va, la dernière fois que je vous ai entendu à l'opéra, c'était à l'opéra de Versailles, dans l'opéra de Grétry. On ne peut pas dire que vous choisissiez les lieux les pires de la planète, Marie Perbos.
J'ai pas mal de chance pour l'instant, pourvu que ça dure.
Et donc là, on rejoint cet univers. Oui, avec ces... on imagine, moi j'ai pas eu la chance de le voir encore mis en scène, cet opéra, donc Coronis de Sébastien Duron, que vous allez interpréter. Mais on a l'impression d'une grande féerie, parce qu'il y a un combat entre Neptune, Apollon aussi.
Et Apollon, absolument. On va avoir effectivement la scène noyée par Neptune et brûlée par Apollon. On n'a pas de chance.
Oui, voilà. Alors, ils veulent se venger, je crois,
sur
la ville.
C'est ça, en fait, c'est la trace. En fait, la pauvre Coronis est poursuivie par les assiduités du Triton.
Incarnée par Isabelle Druet.
Absolument. Donc. Les villageois interviennent pour la sauver et décident de prier désespérément à un dieu pour cesser, en fait, ce Triton qui veut détruire la ville, on est en Thrace. Et effectivement, Apollon intervient, puis Neptune intervient, et puis finalement, ils veulent tous intervenir, et s'ensuit une guerre fratricide terrible qui va un petit peu secouer les habitants de la Thrace.
Et alors, les airs que vous interprétez sont des airs... vous êtes seul ou vous interprétez aux côtés d'autres... chanter, enfin je veux dire, ce sont des solos.
C'est vraiment comme un opéra du 19e. On a vraiment une alternance de récits, d'airs, solistes purs. Là, j'ai un grand air à l'acte 1. Enfin, l'ouvrage est séparé en journées. C'est assez beau.
Oui, il y a deux jours.
Voilà,
d'action.
Journée 1 et journée 2. Et j'ai un très bel air lent où elle désespère absolument, où elle invoque les dieux de lui venir en aide. Et donc là, c'est vraiment un grand air, comme on pourrait être un air bel cantiste. Et parfois, on a des airs rapides, très courts. Et puis, j'ai un très beau duo aussi avec Isabelle. Il y a des ensembles comme un petit chœur grec. On a quatre solistes qui viennent et puis qui interviennent en groupe. Donc, c'est vraiment un opéra avec beaucoup, beaucoup de variété au plateau.
Alors c'est un opéra qui appartient, je crois, à l'univers de la zarzuela.
Absolument, c'est
donc
une
qui était donnée à la cour et qui était un peu l'équivalent de l'opéra comique, parce que normalement c'est dialogue parlé et
absolument.
Chanté, sauf que là je crois que c'est uniquement chanté.
Dans cette version-là, oui. Mais alors on a un jeune étudiant qui assiste à toutes nos répétitions, qui est justement en master et qui fait une recherche actuellement sur le genre...
De la zarzuela.
Dans la zarzuela. Non, mais le genre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait que des femmes au plateau dans la zarzuela. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, waouh, quelle modernité au début du XVIIIe siècle.
Voilà, bon, on a vraiment hâte d'assister à ce spectacle. Et au niveau de l'écriture vocale, justement, sept personnages féminins, il a bien su individualiser les voix, Sébastien Duran, ou alors...
Bien pas mal, effectivement.
Communes.
Alors, je crois qu'on l'a un peu aidé, c'est-à-dire que mes collègues sont quand même d'une grande subtilité et ont été capables d'incarner des personnages aussi en pas forcément travestissant, mais en jouant sur des couleurs vocales, notamment Théa Pichanik qui joue Ménandre, un homme, donc un villageois un peu bourru, mais absolument attachant. Et donc, corporellement, elle virilise son personnage et donc ça s'en ressent aussi vocalement. Et donc elle est contralto, ce qui fait qu'elle a cette couleur un peu exceptionnelle, assez rare, qu'on n'entend pas toujours. Mais notamment, elle joue aussi un peu avec certaines couleurs pour forcer le trait.
Alors là, on parlait du fait que vous chantez en espagnol, vous avez chanté La Flûte Enchantée, donc en allemand, à moins que ce soit une version française, comme
non.
On faisait au début du XXe sur les scènes
en allemand.
Françaises. Je vous ai entendu dans des mélodies italiennes et françaises au
oui.
Louvre du Nord. Et il y a une langue dans laquelle vous avez le plus de bonheur à chanter que dans d'autres?
Ah bah j'ai quand même un vrai faible pour le français, hein, je ne vous cache pas. Le fait d'avoir une proximité immédiate, une conscience absolue de subtilité de chaque mot, même si on fait un travail approfondi dans les langues étrangères, y a une culture et un bagage qui va avec sa propre langue qu'on ne peut pas ignorer et qui rend les choses absolument savoureuses.
Alors Marie Perrabos, on parlait justement de la cuisine, entre guillemets, pour l'opéra. Vous avez parlé du début. Là, actuellement, vous êtes dans les répétitions avec Clavecin.
Oui, les répétitions scéniques.
Répétitions scéniques. Donc à la fois, il y a le metteur en scène.
C'est ça.
Et il y a,
donc là, on se concentre sur construire le personnage et ses déplacements scéniques, mettre au point toutes les relations entre les personnages et les petites tops, les entrées, les sorties, tout en étant carré avec la musique, mais sans chercher à faire des subtilités absolues. Mais d'abord, on met en place comme ça scéniquement, et une fois qu'on est prêt, effectivement, l'orchestre peut arriver. Et là, c'est la musique qui va repasser un peu au premier plan, en espérant qu'entre-temps, nous, on aura bien digéré tout ce qu'on aura détaillé en scénique.
Mais alors, au risque de m'égarer, quand vous chantez, par exemple, dans La Flûte Enchantée, c'est quand même un opéra que vous portez en vous depuis toujours. Enfin, c'est l'opéra, j'imagine, que vous écoutiez petite,
oui, absolument.
Et puis, qui vous a toujours accompagné. Là, vous arrivez dans un opéra que vous ne connaissiez pas avant,
oui.
Donc dans lequel vous n'avez pas votre imaginaire.
Alors, le fait de lire le livret, le fait de se plonger d'avoir essayé mon costume aujourd'hui, de mouvoir dans les décors, ça permet quand même de se donner un univers. Et puis bon, on a tous lu des choses qui nous ont nourris en fait indirectement. Et puis on va piocher dans cette construction mentale et rêvée qu'on a. Et puis on crée au fur et à mesure en espérant donner assez de relief et d'âme au personnage pour que ça touche.
Ouais, écoutez, nul doute qu'on a tellement envie d'aller écouter cet opéra qu'on sera inévitablement touché avec une telle affiche. Donc Maure Porras et Vincent Dumès sont des personnes avec lesquelles vous n'aviez pas travaillé jusqu'à
présent.
Non,
c'est une grande découverte pour moi.
Et qui en plus, eux, maîtrisaient oui. Parfaitement cet univers. Mais alors justement, vous parliez de Maure Porras, quand on voit ses mises en scène, que ce soit au théâtre, à l'opéra, effectivement, il met les acteurs et les chanteurs... une épreuve quand même.
Oui, mais c'est formidable parce que, enfin, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup quand le metteur en scène attend beaucoup de nous. Je suis toujours très triste quand les metteurs en scène pensent qu'un chanteur n'est pas capable de faire autre chose que de chanter les bras en croix et sans bouger, même pas un sourcil. Et même si ça se fait de plus en plus rare, je préfère qu'on me demande le plus possible et que j'atteigne mes limites. Et puis après, avec un peu de chance, j'arriverai même à les repousser plutôt que, voilà, juste arriver, chanter, repartir. Même dans mes récitals où finalement il n'y a pas de mise en scène à proprement parler, ni de metteur en scène à proprement parler, j'essaye à chaque fois d'investir corporellement le plus possible chaque air, parce que je trouve que chanteur lyrique, c'est ça. C'est, je dis toujours avec ma pianiste, on rigole, je lui dis, toi t'es la garante de la musique, mais moi je suis la garante de l'interaction avec le public, et cette interaction elle se joue beaucoup par une corporalité très investie.
Bon, bah, même si vous n'avez pas les bras en croix, on sera très heureux de vous écouter, Marie Pervost, dans ce Coronis dont vous incarnez le rôle titre aux côtés d'une magnifique distribution. Et puis, avec ce poème harmonique, Vincent Dumès, cette mise en scène d'Omar Porras, c'est le 14, 15, 16, 17 février. Ah oui, vous chantez tous les soirs.
Oui, ça, j'avoue que c'est la petite chose qui m'effraie un peu. C'est vrai que généralement, dans tous les opéras que j'ai faits, il y a toujours un jour de pause entre les représentations.
Je disais pas ça pour vous angoisser, mais c'est en revoyant les dates.
Non, mais c'est un fait, c'est un challenge. J'espère que j'irai au bout. J'espère aussi que le Covid ne nous empêchera pas de vivre cette belle aventure. Et puis sinon, bah, c'est la vie. Et puis il y a des choses contre lesquelles on ne lutte pas.
Bon, bah, en tout cas, on est très très heureux de cette perspective, de cet opéra et de vous écouter aux côtés de tous ces musiciens fantastiques. Marie Pervost, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée.
Mais merci beaucoup.